avec le chapitre 30 du livre des Proverbes, où nous cherchons toujours à découvrir les enseignements du Dieu vivant, ainsi que le visage aimé, le visage bien-aimé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous révèle la face de notre Père des cieux, ce Père si tendre que nous pouvons appeler Abba, c'est-à-dire Papa. C'est tellement bon de pouvoir le retrouver, ce Père au cœur de mère, dans toutes les pages de l'Écriture, et de contempler son visage sans mourir, de le contempler pour le refléter. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous donner encore cette faveur d'être sous ton ciel, alors que bientôt nous serons dans ton ciel. Nous serons dans ces demeures aimables de la maison de notre Père. Là, nous avons une place qui nous est préparée, que nous puissions, en faisant la lecture de ce chapitre, nous pénétrer de notre vocation céleste et avoir un esprit de louange, un esprit de joie, que nous puissions oublier les choses qui sont derrière, les choses d'hier, et tendre avec effort vers les choses qui sont devant. Tout notre avenir est devant nous. Quant à ce que nous laissons derrière nous, c'est un océan de paix. Tout est couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu ne te souviens pas de nos fautes, de nos iniquités. Tu les as jetées derrière ton dos. Et tu ne vas pas les rechercher pour les replacer devant nous. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu veux aussi que nous ne vivions pas dans le souvenir de nos manquements. Tu nous dis qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant tu es éloigné de nous nos transgressions. Nous t'en bénissons et nous te demandons de nous donner une heure dans ton propre cœur. En Jésus. Amen. Est-ce que vous entendez ou est-ce que vous devez vous rapprocher? Vous entendez le vent. Jésus en a parlé. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voilà. N'est-ce pas? On est dans la nature. Et Jésus a parlé dans la nature. Et maintenant, quand vous lirez le chapitre 3 de Jean, vous vous souviendrez, on a entendu le vent. C'était un vendredi du mois de juillet 1985. J'ai fait attention au bruit du vent. Je ne savais ni d'où il vient, ni d'où il venait, ni où il allait. Vous avez lu votre chapitre. Et nous commençons par les questions. Citez le nom de quelques hommes qui ont fait l'expérience d'Agur lorsqu'ils furent placés dans la présence de Dieu. Bien, notre cher Agur, j'en ai trouvé 14, mais avec Agur compris, notre cher Agur, quand il s'est trouvé dans la présence de Dieu, il a dit, ah, mais je suis un type formidable. Je suis un homme intelligent, je suis un grand savant. Je peux me tenir devant la face de Dieu, je comprends tout. C'est ça que vous avez vu? Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, même si on s'appelle Agur, comme nous allons voir ce que ça veut dire, le fils de Jacquet, eh bien, on reconnaît quoi? Notre stupidité. Je suis un stupide. Et j'aurais pu même en trouver un 15e, ça me vient maintenant. Hasard. Il dit, quand je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris. Et alors, pensant à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, à ce qu'il pensait, il disait, j'étais stupide. J'étais à ton égard comme une brute. Brute, stupide. Voilà ce que je suis, par nature. Ça me met bien à ma place. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qui? Job? Oui. Job qui dit, je mets maintenant ma main sur ma bouche, je ne veux plus parler. J'ai dit des bêtises. J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent. J'ai horreur de moi. Je me répands dans la poussière et dans la cendre. Job, un. Un autre. Ésaïe, 6, 9. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Un autre. Comment? Paul, oui, dans le Nouveau Testament. Paul. Mais quel... Où est-ce que tu le vois, Paul? Non, pas tellement. Pense pas. Là, il n'a rien dit. 2 Corinthiens, chapitre 12. Quand il a été dans le troisième ciel, qu'il a entendu des choses ineffables, et qu'il est redescendu, il aurait pu se glorifier. Mais le Seigneur lui a donné ce souvenir de ce qu'il était, et il a eu cette écharpe dans la chair, de sorte que c'était un ange de Satan pour le souffleter. Quand vous avez eu une vision glorieuse du Seigneur, et que vous auriez tendance à vous élever, le Seigneur permet justement que vous ayez peut-être une épreuve qui souligne votre immense faiblesse. Paul a reconnu sa faiblesse après avoir vu la gloire de Dieu. Il y avait l'ange de Satan pour le souffleter, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas des révélations qu'il avait eues. Vous avez cité Paul. Quelqu'un a cité encore Daniel. Et c'est vrai, Daniel, son teint frais se changea en corruption. Une autre version dit que quand il a été dans la présence du Seigneur, il changea de couleur. Et il tombe sans force. Un autre. Jean dans l'Apocalypse, Nouveau Testament. J'en avais trouvé 14 dans l'Ancien, mais il y a encore ce du Nouveau Testament. Jean, quand il voit le Seigneur dans sa gloire, quand je le vis, je tombais là comme mort. Et pourtant, c'était le plus intime du Seigneur. Quand il était sur la terre, il reposait dans le sein du Seigneur. Alors, vous avez dit Moïse. C'est vrai. Quand il a eu la vision du buisson ardent, il craignait de regarder vers Dieu. Exode, chapitre 3, verset 6. Et qui encore? David. Un chronique, quand il a péché avec le dénombrement, et qu'il a vu l'ange de l'Éternel, il a été saisi d'épouvante. Le double psalmiste d'Israël. 1 Chronique 21, 7 à 30. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Il était encore tout jeune. Et il est saisi de crainte. Et qui encore? Non, il n'est pas dit ça de Samuel. Jacob, quand il se réveille dans cette clairière, Genèse 28, versets 16 à 17, il eut peur. C'est ici la maison de Dieu. Dieu était ici et je ne le savais pas. Et le père de tous les croyants, Abraham, chapitre 15, une grande frayeur. a saisi Abraham quand il a eu la révélation du Dieu qui lui dit « Je suis le Tout-Puissant, je suis ta très grande récompense. » Chapitre 15, quand il fait l'alliance avec Abraham. Ézéchiel, chapitre 1 et chapitre 3, verset 16, il est stupéfait. Pierre dans la barque, Luc 5, verset 8 à 9, quand il voit, pourtant il suivait le Seigneur, mais tout à coup, au moment de la pêche miraculeuse, il dit, retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Lui, le grand pêcheur avec un circonflexe, qui avait pensé que le Seigneur n'était qu'un charpentier, et qu'il ne pouvait guère le conseiller. Nous avons travaillé toute l'année et nous n'avons rien pris. Puis le charpentier lui dit, jette le filet de ce côté. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. Mais il est bien persuadé qu'il ne va rien prendre. Puis voilà qu'il prend. Alors il a la révélation qu'il est un pécheur. Pas un pécheur, mais un pécheur. Et qui encore ? Josué, quand il est devant Jéricho et qu'il voit le chef de l'armée de l'Éternel qui s'approche et qui lui dit « Ôte, les sandales de tes pieds, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. » Et encore, Gédéon, au chapitre 6 des Juges, quand il a la vision de l'Éternel, il est saisi. Et il dit, malheur à moi. Puis qui encore? Manoah, le mari de la mère de Samson. Jude 13, versets 2 à 23. Et qui encore? Dans le prophète Zacharie, quand il se trouve dans la présence de l'Éternel et que le diable est là. Josué. Josué, qui se voit couvert de quels vêtements? Des vêtements éclatants de lumière, non? Des vêtements sales. Et c'est le Seigneur qui le revêt d'autres habits. Voilà ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. Donc vous voyez, si le Seigneur vous amène en sa présence, eh bien, ne perdez pas courage. Si vous vous voyez dans cet état-là, c'est que vous vous voyez tel que vous êtes et tel que Dieu vous voit, mais non pas tel que vous resterez. Lui va tout changer et vous aurez finalement, comme le dernier que je vous cite, qui va mourir et qui voit le ciel s'ouvrir. Et que voit-il ? Le Seigneur. Et son visage resplendissait comme celui d'un ange. Et il peut témoigner, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà pour la première question. Deuxième question. Connaissez-vous d'autres passages de l'Écriture affirmant que nous ne pouvons rien ajouter à la parole de Dieu? Le dernier, c'est Apocalypse 22, verset 18. Celui du centre de la Bible, c'est donc Proverbe 30, verset 6. N'ajoute pas à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Comprenez le bien et comprenons-le, moi le premier, tout ce dont j'ai besoin pour vivre toute ma vie et jusqu'à ma mort, je le trouve dans la parole. Je n'ai rien à ajouter. C'est absolument suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'autres révélations. La révélation dans l'Écriture m'est donnée sur toutes les questions qui peuvent m'être utiles. Il y a des choses qui ne me sont pas révélées parce que Dieu, dans sa grâce et son amour, à garder secret certaines choses qui nous seront révélées au plus tard. C'est la surprise, car il nous réserve une grande surprise. Ça dépassera tout ce que nous avons pu imaginer et penser. Vous allez au-devant de la plus extraordinaire des surprises. Ça dépassera tout. Vous serez tellement surpris que vous réaliserez peut-être alors qu'il fallait un autre corps pour supporter ça. Quand on verra l'éclat de cette gloire dans laquelle il va nous faire entrer, quand on verra ce que la grâce a produit dans chacune de nos vies, on n'aura plus Dieu que pour lui. Ce sera tellement beau, ce sera tellement merveilleux, qu'on se dira, mais vraiment, mais comment est-ce que j'ai pu sur la terre hésiter de me décider pour le Seigneur? C'est incroyable. Si je pouvais dire ainsi, comme le dit Chouraki, on sera saisi d'un frémissement éternel. Ce frémissement quand tout à coup, mais c'est pas possible. Alors vous comprenez ce que ça sera? Quoi? Ça sera l'adoration. Ça sera un fleuve de louanges. Donc n'ajoutons rien. Mais ne retranchons rien non plus, comme il est dit dans l'Apocalypse. Alors, est-ce que vous avez trouvé d'autres passages? Deutéronome 4, verset 2 et 12, verset 2. Ne rien ajouter et ne rien retrancher. Et vous aurez remarqué que ça est dit dans la première partie de l'Écriture, le Pentateuque, hein, au centre de la Bible, Proverbe, et puis à l'Apocalypse. Donc, c'est la même pensée. Et si on ajoutait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Menteur. Et le diable, justement, sa pratique, c'est de toujours ajouter. Y a-t-il dans ce texte une prière que vous puissiez faire vôtre? Vous avez trouvé une prière là-dedans? Vous ne pas qu'elle est belle? Elle est sage. On voit que réellement il était à l'école de Dieu et que ce qu'il demande, c'est pas la lune, c'est réellement cette sagesse en toute chose. Verset 7. Mon Dieu, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Empêche-moi de tromper les autres et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant à quoi Dieu sert-il, parce que on s'attribue toutes choses. Et puis, si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Voilà un homme qui a appris à se connaître et qui sait les risques dans lesquels une certaine situation peut nous mettre. Vous direz, mais moi, je ne volerai jamais. Tu as vu ta femme malade et tes enfants mourir de faim? Peut-être qu'on n'a pas passé par là, qu'on n'a jamais eu ce sentiment, puis tout à coup, dans une certaine situation, nous aurions une certaine tentation en nous disant, ben, un pain, ça ne peut pas lui nuire si je le prends. Mais je serai quand même un voleur. J'aurai des excuses. Mais là, vous ne pouvez pas savoir, si vous vous trouviez dans une certaine situation, vous ne pouvez pas savoir ce qui pourrait vous arriver. Et vous savez, il faut avoir la conviction que le Seigneur est grand. Est-ce que je vais raconter l'histoire du missionnaire dans ces dernières années qui a été encerclé par les lions? Je l'ai dit peut-être au camp familial. Mais on m'a raconté cela à la porte ouverte cette année, mes amis qui ont des missionnaires là-bas en Afrique, et ça s'est passé il y a peut-être 5-6 ans, un vieux missionnaire indigène allait évangéliser dans une bourgade, et tout à coup, il était seul, à pied, dans la brousse, il a vu un lion venir sur sa droite, un autre venir sur sa gauche, puis il a regardé derrière lui, il ne pouvait pas fuir, il y en avait un autre qui venait derrière. Puis devant, les lions ne sont pas bêtes, hein. Ils avançaient comme ça en tenaille, eux aussi. Alors qu'a fait ce lion? Ouais, c'était un lion, lui aussi. Qu'a-t-il fait? Il a regardé vers le Seigneur. Puis il s'est tourné face au lion, au lieu de fuir. Puis il les a évangélisés. Il leur a dit, attention, je suis un serviteur de Dieu, de votre maître. Il leur a parlé avec autorité. Les lions l'ont écouté. Je ne vais pas vous faire tout le sermon de ce missionnaire indigène. Et les lions n'ont pas chanté le cantique qu'on dit toujours. Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. Les lions, ils sont partis. Et il a continué son chemin. Il a dit, nous travaillons ensemble pour le même Dieu. Les lions ont compris. Et si vous prenez toutes les histoires de lions, hein, il y en a, et ce serait formidable hein, pour les camps d'enfants, prendre les histoires de lions. Ils aiment ça. Vous verriez que le lion ne frappe que si Dieu lui a ordonné. Dieu commande aux corbeaux, Dieu commande aux lions. C'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, ces hommes indigènes, peut-être, qui ont reçu l'évangile, ils sont saints, ils y croient. Et ils mettent ça en pratique. Et je ne veux pas dire ça réussit, hein, mais Dieu entend et il exauce. Il honore la foi des petits-enfants. Redevenons des petits-enfants. Mais nous, évidemment, nous ne serions pas partis comme ça, nous aurions notre arme, hein, prêt à tuer. Mais aller sans arme, mais il a l'armure complète de Dieu. Et les lions respectent ceux qui sont au service de leur propre maître, car les lions savent que c'est Dieu qui nourrit les lionceaux. Nous avons cela dans un psaume. Il donne la nourriture aux lionceaux. Chapitre 1. Question 3. Y a-t-il dans le texte une prière que vous puissiez faire vôtre? Donc, vous l'avez fait. Les bêtes peuvent-elles nous enseigner? Qu'est-ce que vous avez dit? Job 12, verset 7. Et ça se rapporte à 30, verset 7 à 9. Non. Non, verset 24, oui. Pardon, j'ai... Alors, je voulais simplement vous dire que nous trouvions, je pense, 47 animaux différents, disons une cinquantaine d'animaux, dans le livre des Proverbes. Et il y a les insectes, la fourmi, la sauterelle, il y a les oiseaux, l'aigle, le passereau, l'hirondelle, le corbeau, les aiglons, il y a les animaux domestiques, le bœuf, l'âne, la brebis, le porc, et d'autres encore. Il y a des animaux sauvages, le lion, l'ours, et d'autres encore. Il y a des reptiles, le serpent, le lézard, le basilic. Donc, le livre des Proverbes fait mention de plusieurs animaux qui nous sont donnés comme exemple, le daman des rochers ou la gerboise. vous les avez trouvés. Alors, quel nom convient-il à Jésus ici? Qu'est-ce que vous donneriez? N'allez pas chercher midi à 14h. Le Fils. Son Fils. Son Fils. Passez pas dessus. Alors, nous prenons maintenant notre chapitre. Parole d'Agur. Vous voyez que c'est une cinquième partie dans laquelle nous entrons. Nous avons fini la partie quatrième qui était formée de cinq chapitres. Les proverbes qui avaient été réunis en quel temps? Au temps d'Ézéchias. Mais qui venaient de qui? De Salomon. Alors maintenant, on trouve cet Agur. Alors on a discuté beaucoup pour savoir qui était cet Agur. Eh bien, peu importe. Si nous ne savons rien de lui. En tout cas, je dirais que ce qui est sûr, cet Agur est un homme à qui Dieu a parlé. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Agur est un homme à qui Dieu a parlé et lui a prononcé un oracle, c'est-à-dire il a parlé à son tour de la part de Dieu. Et il s'est adressé à deux personnes. On discute aussi qui était Ithiel et qui était Ucal. Eh bien, il a parlé à ces deux personnes, il leur a parlé de la part de Dieu. Mais il ne s'attribuait aucun mérite de leur avoir parlé. Il était humble. Paroles du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Et alors, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il ne se glorifie pas. Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science, ce qu'ont dit des saints d'Arbidi, et d'autres, plus littéral aussi, du saint, S-A-I-N-T, qui est le Seigneur même, qui est Dieu lui-même. Mais aussi, on pourrait aller parler des saints qui représentent le saint. Soyez saints comme moi, je suis saint. Agur veut dire collecteur. Jacqué veut dire homme pieux. Ithiel veut dire Dieu est avec moi. Et Ucal, j'ai pu comprendre. De sorte qu'on peut penser que c'était Ithiel et Ucal pouvaient être deux disciples de cet Agur ou deux fils. Et comme nous l'avons vu, Agur ne se mettait pas lui-même au nombre des sages. Il était au contraire, le contraire, l'opposé d'un sage, selon la nature. Le contraire de Salomon, dont on a vu un roi, 3 verset 12, qu'il avait une sagesse extraordinaire. Lui nous dit qu'il était stupide, comme Asa, dans le psaume 73, verset 12. À 22. Dans les raisonnements qu'Asa avait eus en portant envie aux méchants, eh bien, il se repent une fois qu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Comme j'étais stupide. J'étais à l'égard de Dieu comme une brute. De sorte que ce que nous pouvons souligner, c'est que Christ seul est notre sagesse. 1 Corinthiens 1. Versets 17 à 31. Il ne connaissait donc pas la science du Dieu saint ou la science des saints. Et vous avez, depuis le verset 4, 6 ou 7 questions, ça dépend comment on compte. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Ça vous a fait penser à quoi? À quelle parole? Vous n'avez pas ça dans le Nouveau Testament? Mais il y a presque les mêmes paroles. Chapitre 3 de l'Évangile de Jean. L'entretien de Jésus avec Nicodème. Jean, chapitre 3. Jésus, parlant à Nicodème, lui dit, au verset 12e, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors évidemment, vous pouvez aussi citer Éphésiens 4, verset 9. Mais c'est spécialement Jean 3, verset 13. Maintenant, qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui? Vous avez vu quelqu'un qui a le pouvoir de ramasser le vent et d'arrêter le vent? C'est Jésus dans la tempête. Voilà, il faut que le voile se déchire. Vous êtes dans les proverbes, mais c'est Jésus dans la tempête. Qui est-ce qui a rassemblé le vent dans le creux de sa main? Jésus se lève, il dit au vent, tais-toi. Il reprend le vent et il se fit un grand calme. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Souvenez-vous de Job et de ses questions dans ce merveilleux livre de Job. Et souvenez-vous tout à coup des réponses de Dieu. Dieu ne répond pas aux questions de Job, mais il lui pose des questions. Il le questionne. Et le pauvre Job, il est cloué, zéro sur toute la ligne. Il manque son bain. Mais Dieu le bénit quand même. Et Dieu nous montre, en questionnant Job, toute son œuvre glorieuse. Qui est-ce qui a étendu les mers? Qui est-ce qui a dit que l'eau s'arrêterait ici et qu'elle n'irait pas plus loin? Tout cela est de Dieu. Et vous comprenez que s'il y a un raz-de-marée, ce n'est pas simplement un phénomène qu'on peut expliquer scientifiquement, parce qu'on essaye d'expliquer tout d'une façon scientifique. Dieu est derrière tout cela. Lisez le psaume 29, qui est une fantastique révélation au sujet de toutes ces circonstances atmosphériques, un cyclone. Nous, on explique tout cela, un orage, une tornade, un raz-de-marée, un volcan. Mais c'est la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de la terre. C'est la voix de l'Éternel qui déchire les cèdres du Liban. C'est toujours la voix de l'Éternel. Job, chapitre 38. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé sa pierre angulaire? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Puis vous pouvez continuer. C'est évidemment un langage poétique, comme du reste dans le texte que nous étudions. Qui a serré les eaux dans son vêtement et puis ensuite qui les répand. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quand le Seigneur a appelé les cinq continents à émerger des eaux, c'est toujours le Seigneur. Alors on se pose des questions. Quel est son nom? Vous pouvez faire toute une étude sur quel est son nom. Agur se posait la question, quel est son nom? Est-ce que d'autres s'étaient posé la question avant lui? qui? Job, Moïse, Jacob. Jacob, quel est ton nom? Manoah, quel est ton nom? Il est merveilleux. Et le nom de son fils, vous ne trouvez pas que c'est beau de trouver ça déjà dans les proverbes? Le nom de son fils, est-ce que vous le connaissez? Quel est le nom de son fils? C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom se ploiera à tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Ami, ami, campeur, campeuse, groupe Mahanaïm de 85, est-ce que nous le savons? Vous avez été interpellé. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui. Plusieurs ont été saisis par cette parole, que c'était dans le chapitre 22, un message direct, personnel. Eh bien maintenant c'est aussi personnel. Le sais-tu? Le sais-tu? Pierre savait qui était Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais toi aussi, tu étais avec cet homme. C'est pas ce que tu dis. Je ne connais pas cet homme. Il le savait pourtant. Qui était Jésus? On le chante. Tout le monde doit savoir. Puis voilà. Brum. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Mais est-ce que nous le savons, nous? Qui est Jésus? C'est Dieu lui-même manifesté en chair. C'est la parole qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, qui a été manifestée en chair. Voilà ce que vous trouvez dans ce chapitre 30 des Proverbes. Alors, toute parole est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Vous voyez, vous pouvez prendre chaque parole. Nous croyons à l'inspiration verbale des Écritures. C'est-à-dire, nous croyons que toutes les paroles de l'Écriture ont été éprouvées dans le creuset, qu'il n'y a rien de mauvais, que les scories ont été enlevées. Et ce que ces hommes ont dû nous apporter, c'était des instruments de Dieu. Aucun homme n'a parlé de lui-même. Mais c'est en étant soumis à l'inspiration de Dieu qu'ils ont écrit. De cinq hommes de Dieu ont écrit, étant poussés par quoi? Leur imagination. C'est ça vos Bibles? Qui est-ce qui a cette version-là? Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Où trouvons-nous ça? Deuxième épître de Pierre. Chapitre 1er. Alors, si ces paroles sont toutes éprouvées, et qu'est-il pour nous un bouclier? C'est ce qu'il a été pour qui en premier? À qui est-ce que Dieu a dit « Je suis ton bouclier » ? À Abraham. Eh bien, ce que Dieu a été pour Abraham, il l'a été pour Agur, et il veut l'être pour nous. Il l'a été pour Paul, qui nous parle aussi du bouclier. Il a été le bouclier de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que c'est qu'un bouclier? Parce qu'il faut redonner le sens au mot. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bouclier? C'est une arme défensive par laquelle vous vous préservez des flèches. C'était de ce temps-là, surtout avec les archers. Ou avec l'épée, on pouvait se protéger. Il est un bouclier pour qui? Pour n'importe qui? Pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La moitié du temps, on ne connaît pas Dieu notre bouclier. Pourquoi? Parce qu'on a notre refuge où? Dans toutes les assurances. On est assuré contre le risque d'un miracle. Dieu ne peut plus intervenir. Dès qu'il nous arrive quelque chose, ah, on a cette assurance. C'est assuré. Assurance tout risque. Des très chrétiens et souvent très évangéliques n'ajoutent rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Alors, ça vous ramène à quel texte aussi ? Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Alors maintenant, c'est la prière. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il sait qu'il doit mourir. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. On en a fini avec la fausseté et avec le mensonge. On ne peut plus vivre dans cette atmosphère. On y a peut-être vécu. On a peut-être aimé ce genre de vie, mais maintenant, on en a horreur. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est de pouvoir glorifier le Seigneur. Et je fais confiance à la sagesse de mon Dieu qui sait quelles sont mes tendances. Il y a des risques. Eh bien, je ne voudrais pas te renier dans l'abondance. Et je ne voudrais pas non plus être tenté dans la pauvreté et devenir un voleur. Et ainsi, je déshonorerais quel nom ? Le nom de Dieu. Ce n'est pas mon nom que je déshonore. Je suis déjà corrompu. Mais qu'est-ce que je déshonore ? On a su que je me réclamais de Dieu, du Dieu vivant. Puis c'est ça que vous faites, vous qui vous réclamez du Dieu vivant, vous qui vous réclamez des enseignements du Dieu vivant. Quelle est votre relation personnelle avec le Dieu vivant en 1984, disait Jean-Paul II, en traversant tout le Canada. C'est une parole qui m'a profondément interpellé. N'insiste pas sur la personne qui l'a dit, mais ce qu'il a dit était une vérité et m'a remué jusqu'au fond de mes entrailles. Quelle est ma relation personnelle avec le Dieu vivant ? Ce n'est pas les autres qui peuvent répondre pour moi. C'est vous qui le savez. À quoi en êtes-vous dans votre relation avec le Dieu vivant ? C'est le secret de la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété ? La piété, c'est justement notre relation personnelle avec Dieu. C'est ça la piété. Qu'en est-il de votre piété ? La piété, c'est pas faire des prières, c'est pas chanter des cantiques, c'est pas même se mettre à genoux, avoir des airs pieux. La piété, c'est une vie réelle. Et c'est utile à toute chose. L'exercice corporel, nous en bénissons Dieu, est utile. Parce que nous avons un corps et nous ne devons pas le négliger, mais la piété est utile à toute chose ayant les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Et j'insiste, de la vie présente. Votre relation avec Dieu peut changer votre situation présente. Mais on ne recourt pas à Dieu, on recourt à toute espèce d'autre moyen.
Nous en étions à quel verset ? Verset 10.
Alors, ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. La calomnie, aussi comme on a vu le mensonge et la fausseté, la calomnie, aller calomnier quelqu'un auprès de son maître pour essayer peut-être de se faire bien voir, c'est une abomination et ça peut se retourner contre nous. Et nous nous rendons coupables. Et alors vous avez ensuite ces versets 11 qui sont poignants. Il est une race qui maudit son père. Est-ce que c'est ce qu'on nous a appris dans les proverbes ? Nous ne devons pas maudire notre père. Mais il en est une pourtant qui maudit son père. Et dans quel temps sommes-nous aujourd'hui ? Dans le temps où cette race est de plus en plus manifestée. Vous pouvez mettre en parallèle avec ces textes quel chapitre de la deuxième à Timothée, le chapitre troisième. sache que dans les derniers jours, les gens seront, et vous avez tous les caractères de cette race des derniers jours. Il est une race qui maudit son père, qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure. On ne peut rien enseigner, ils savent tout. Et tout est pur, nous dit-on, pour celui qui est pur. On se sert même de textes bibliques pour marcher plus en avant dans la corruption. Il est une race qui se croit pure alors qu'elle est souillée, qui n'est pas lavée de sa souillure. Et ce sont des gens qui veulent nous parler de pureté. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières, on les retrouve les paupières. Paupières qui regardent droit devant soi, ou paupières fermées, paupières ouvertes, paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives. Et les mâchoires des couteaux. Vous rendez-vous compte? Quand vous parlez, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Des glaives pour tailler en pièces. Vous dites, mais moi je ne me suis jamais servi d'une épée. Mais ta langue, est-ce qu'elle n'est pas un glaive qui taille en pièces les autres? Quand tu parles d'eux, il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Quand on voit quelqu'un parler avec méchanceté, vous avez déjà vu sa mâchoire? Sa mâchoire qui tremble dans sa rage. Et on voit toute la méchanceté, il a une mâchoire comme des couteaux, cet homme-là. Pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Que Dieu nous garde de tout cela. Et vous voyez, les images qui sont employées, qui sont données, vous restent. Parce que ce n'est pas une vérité ésotérique, c'est une vérité pratique. Et maintenant, ce n'est pas dans les nuages que vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça au milieu des hommes, au milieu de gens qui ont une grosse mâchoire. Alors maintenant, on arrive à la censure, chère sœur. Il y a deux sœurs qui s'en vont vers les censures. Je ne sais pas si vous entendrez leur langage, mais à Jolibé aussi, elles disent « donne, donne ». La censure, elle a deux filles. Qu'est-ce que c'est, cette expression-là? Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Eh bien, après cette race des méchants que vous retrouvez déjà aussi signalée dans Deutéronome 32, versets 4 à 6, j'ai seulement souligné 2 Timothée chapitre 3, mais vous l'aviez déjà dans Deutéronome 32, et Jésus lui-même a parlé aussi de cette race. Race incrédule et perverse. Matthieu 17, verset 17. Matthieu 12, verset 39. Et alors, il y a 7 choses que vous pouvez vous-même trouver qui caractérisent cette race. Et dès ce moment-là, donc, nous arrivons à ces proverbes qu'on appelle des proverbes à nombre. Et qui est introduite par la censure qui a deux filles. C'est la soif et l'égoïsme. Et ça introduit 4 choses qui sont vraiment insatiables, qui ne disent jamais qu'elles manquent assez. Alors, le séjour des morts, le séjour des morts qui prend les vivants, tous les vivants doivent mourir. Alors, le séjour des morts, ben, c'est une chose insatiable. La femme stérile, c'est la femme qui reçoit toujours de la semence, mais qui ne donne pas de fruits. Elle reçoit sans produire. Il faut l'intervention de Dieu. Et ensuite, la terre, troisième chose, qui n'est pas rassasiée par l'eau. Elle boit l'eau, sauf au déluge. Puis quoi encore ? Le feu. Tant que vous alimentez le feu, il ne s'éteint pas. Le feu est insatiable. Alors méditez sur tout ce que cela pourrait vous dire. Verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance à une mère, c'est un verset terrible celui-là. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Et on a constaté que la nourriture de choix des petits de l'aigle, c'était l'œil. Les petits de l'aigle, les petits aiglons, ils aiment manger les yeux. Et qu'est-ce que c'est les yeux ? C'est la partie la plus délicate pour nous, la prunelle de l'œil. Il y a donc une malédiction qui est annoncée sur celui qui se moque d'un père. C'est quelque chose. Et sur celui qui dédaigne l'obéissance à qui ? À une mère. Donc on doit obéir à sa mère, pas seulement à son père. Verset 18. Alors ce sont les quatre choses incompréhensibles. On a vu les quatre choses, insatiable. Maintenant, quatre choses, trois choses et quatre qui sont incompréhensibles, hors de ma portée, au-dessus de ma portée. La trace de l'aigle dans les cieux. Vous avez vu l'aigle ? Vous avez vu sa trace ? Non, il n'était pas alimenté de kérosène. L'aigle volait sans kérosène, alors il n'y avait pas de trace. Tandis que les avions, nous les hommes, on laisse des traces. On pollue. L'aigle, il ne pollue pas. Il a passé, c'est vrai, mais il n'a pas laissé de trace. La trace du serpent sur le rocher. Vous voyez le serpent qui... Il a passé. Trouvez sa trace. Elle n'est pas là. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais il faut aller. La trace du navire au milieu de la mer. Bien sûr, hein, quand il vient de passer, il y a une trace, mais elle disparaît. Le navire est allé plus loin. Et très rapidement, le sillage du navire est estompé. Et maintenant, la trace de l'homme vers la jeune femme. C'est quelque chose. Comment est-ce que l'homme est conduit vers la jeune femme ? C'est Dieu qui a fait l'homme et la femme. C'est Dieu qui doit nous conduire. Et on ne peut pas expliquer. Quand c'est Dieu qui rassemble, quand c'est Dieu qui est réellement à l'origine de ce qui va être un couple, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. C'est un miracle. Mais aussi, alors le verset 20, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle croit qu'on ne va pas le savoir, qu'il n'y aura pas de traces, mais pour elle, il y aura des traces. Elle croit que ça ne va pas laisser de traces. Bien, s'il y a des choses qui ne laissent pas de traces, elle se trompe complètement. Elle vit dans le péché, elle pêche, puis ensuite, bon, avec le péché, on mange, ça va, puis on s'essuie la bouche, c'est fini. C'est beau, mais je n'ai point fait de mal. Au nom de l'amour, on excuse tout. Je n'ai point fait de mal, mais il n'y a pas de mal à ça. Vous connaissez les chansons que le monde profane fait, Hein? Il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Du moment qu'on aime, pourquoi est-ce que vous voyez toujours du mal? Il n'y a pas de mal. Verset 21. Alors, avec le verset 21, vous avez quatre choses intolérables. On a vu quatre choses insatiables, quatre choses incompréhensibles. Puis maintenant, trois, quatre qui sont intolérables. Il en est quatre que la terre ne peut plus pas supporter. Un esclave qui vient à régner. Ah oui, là on aurait aussi des exemples à donner. Un esclave qui devient roi. Il est esclave autrefois. Alors comme roi, il multipliera les maladresses. Comme certains premiers ministres d'autrefois, qui n'avaient pas l'expérience, que de maladresses n'a-t-il pas fait? Voilà bien pourquoi il n'est peut-être pas premier ministre dans certains pays aujourd'hui. Mais vous vous souvenez de ces maladresse quand on n'a pas d'expérience. Eh bien, un esclave, bien souvent, il n'a pas l'expérience du règne, de l'autorité. Et un peuple gouverné par un esclave, c'est quelque chose d'intolérable. Un insensé qui est rassasié de pain. Et voyez-vous, l'insensé qui, donc, se moque de Dieu, s'il est rassasié de pain, et qu'il est riche en plus de cela, eh bien, il a du temps et il risque de vous apporter toute espèce de trouble et de cruauté. Une femme dédaignée qui se marie. Disons littéralement, une femme qui devient l'épouse préférée et qui se venge alors de qui? De ses rivales. C'est quelque chose de terrible dans les harems. Quand quelqu'un surgit dans un harem et qui avait été dédaigné, puis tout à coup elle passe la première, elle a des vengeances terribles sur ses rivales. Il y en a eu à la cour de France, de ces femmes-là. Je montais et vous descendiez, madame. Sous Louis XIV. Vous connaissez les histoires de Madame de Maintenon et de la Montespan. Et une servante qui hérite de sa maîtresse, elle devient hautaine, égoïste, provocante. On a cela dans des ménages. C'est une servante qui est hérite de sa maîtresse, quand dans des foyers où il y a une servante, puis qu'elle est assez bien moulée, assez bien tordue, assez bien tournée, puis que le maître de la maison commence à jeter un regard sur elle, et se met avec elle, dans son propre foyer, quel drame. La servante prend une position et en fait voir de toutes les couleurs à la femme légitime. Voyez combien les proverbes sont précis sur des situations qui ne sont pas de ce temps-là, qui sont de tout temps, et dont vous pouvez trouver des exemples dans l'Écriture. Lequel, par exemple? Agar, hein? Quand elle s'est vue, au fond, enceinte, elle a méprisé qui? La femme légitime, Sarah. Il y a sur la terre quatre animaux petits. Alors maintenant, vous voyez la sagesse qui se fait connaître dans les petites choses. Quatre choses humbles. La sagesse, elle se fait connaître sur la terre par des choses petites, et qui sont cependant des plus sages. Et alors vous avez les fourmis, et vous pouvez reprendre quel chapitre pour en savoir plus long sur les fourmis? 6. Les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Puis elles y travaillent, hein, alors qu'elles n'ont pas de chef. Il y a, c'est vraiment toute une communauté où chacun a son rôle, sa place. Les Damons, peuple sans puissance, on en avait parlé une fois dans un camp. C'est ces petits animaux qui habitent parce que justement ils n'ont pas de puissance. Où ont-ils été faire leur maison, les blaireaux par exemple, dans les rochers. Vous voyez, la sagesse que Dieu leur a donnée. Comme ils sont sans puissance et qu'ils risquent d'être attaqués ailleurs, ils vont sur les rochers. Eh bien vous, mes bien-aimés, nous sommes des gens sans puissance. Sur quoi devons-nous baser notre vie? Sur le roc, n'est-ce pas? Sur le roc. Alors, nous tiendrons. Et puis, on pourrait parler de ce qu'on a observé chez les blaireaux. C'est quelque chose de fantastique quand ils sont en communauté. Et pendant leur repas, il y en a un qui fait la sentinelle. Et si il y a quelque chose de trouble, il annonce ça à tous. J'ai vu ça, justement, à Jolibé, alors d'une autre façon, avec les castors. Hein. Le castor, quand il est en danger, il avertit toute sa famille, la dame de castor, c'est pas sa femme, mais une dame de castor, c'est la maison hein, qu'ils ont construit. Oui, parce qu'une fois, on avait parlé d'une dame de castor, qu'on irait voir une dame de castor, puis il y a des gens qui s'étaient figurés qu'on allait voir la femme du castor. C'est la maison qu'on appelle une dame de castor, hein. Eh bien, je l'ai vécu, j'écrivais sur le tableau noir le résumé de mon message sur les 12 portraits de Jésus dans l'Apocalypse. Eh bien, à 7 heures, j'ai entendu clac sur le lac. C'est un castor qui, 2 jours avant, avait taillé un boulot, et le cher Gaston Jolin était fou de rage parce qu'on avait coupé le boulot, et fou de rage, en fait, j'exagère là. Mais il a dit, je l'aurai. Et il l'a eu, en effet. Mais le castor, sentant qu'il était en danger, il était venu chercher l'arbre, hein, 2 jours après. Puis il le traînait dans le lac. C'est assez extraordinaire. Puis on a entendu. Comme ça. Hein. Une claque avec sa queue sur l'eau. Et il avertit les autres. C'est extraordinaire. Il y a donc une cohésion. Vous verrez, du reste, les bouleaux, ils ont du treillis maintenant, pour que les castors se fassent bien les dents. Parce que c'est drôle comme ils taillent ça hein, avec leurs dents. C'est vite taillé un bouleau. Voilà, on aurait toutes sortes de choses à dire sur ces. Les sauterelles, qui n'ont point de roi et qui sortent toutes par bandes, comme des divisions. Et qui peuvent ravager tout un pays. Vous avez su que le Manitoba l'année passée a été ravagé par des sauterelles et que des gens ont dû sortir de leur maison. Moi, je ne suis pas tellement effrayé par tout ce qu'on entend dire des bombes atomiques et, qui sont bien sûr dépassées, tous ces engins de guerre effroyables, puis on a peur des engins de l'Amérique, des engins de la Russie. Mais vous n'avez pas peur de ce que Dieu pourrait faire? Cette nuit même, j'étais tellement empoisonné dans ma tour par des petites bibites, je me disais, mais s'il y en avait davantage, elles me chasseraient. Je pouvais pas travailler. Ça vous vient dans les yeux, elles sont toutes petites, et puis vous croyez en tuer 3, 4, il y en a 10 qui reviennent. C'est vraiment... hein, des combattants, puis ils n'ont pas peur de mourir. Donc c'est par vagues, puis encore les papillons de nuit qui vous entrent par là, dans l'oreille. Non, mais je pense toujours aux plaies d'Égypte. On pense toujours aux armes d'un pays, aux armes d'un autre pays. Mais est-ce que vous ne savez pas que Dieu, il n'y a pas besoin d'armes? Alors le lézard aussi, on le saisit avec les mains, si vous arrivez, qu'il se trouve dans le palais des rois, il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, là, je ne vais pas entrer dans le détail parce que le lion, le roi des animaux, héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, sinon le missionnaire. Maintenant, le cheval, tout équipé. Quand on voit le cheval qui peut supporter la bataille, hein, comme il l'est dit dans d'autres textes, il va quand même. Et puis, celui qui le monte, le tient, et il se précipite dans la bataille au son du clairon, et que sais-je. Et puis, quoi encore? Le bouc. Alors là, il y a des traductions qui nous donnent d'autres choses que ce que vous avez. Il est dit, le. Oui, on arrive à la fin, hein, alors. On va plier Badal, puis on va finir à la... Oh, c'est une petite pluie. Alors, on peut continuer là où nous nous étions arrêtés, à cause de la pluie. Nous vous faisions remarquer que certaines traductions... Par exemple, français courant dit, il y a trois êtres vivants qui ont une démarche et une allure remarquables. Le lion, c'est vrai, hein, le plus courageux des animaux, qui ne recule devant rien. Alors nous aussi, nous devons être comme un lion pour les bonnes choses. Nous devons reculer devant rien. Puis alors, ici, il est dit, le coq. Qui se dresse sur ses ergots. Le coq. Ouais. Certaines traductions ont donné ça, le coq. Darby a mis le coursier, qui a des reins sains, d'autres ont mis le cheval. Il y a des fois des difficultés, hein. Et le bouc. Alors, pour vous détendre un peu, je vous dirai pourquoi le coq. C'est l'emblème de qui? De la France. Et, le coq gaulois. Et on m'a demandé à Aix-en-Provence, au mois de mai, une chère amie française m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi la France a choisi le coq? J'ai dit non. J'ai avoué mon ignorance. Je suis stupide comme un gur, je ne sais pas. Alors elle m'a dit, bien parce que le coq, c'est le seul animal qui chante en ayant les pattes dans le fumier. Ça en dit long. Le seul animal qui chante en ayant les pieds, mais les coqs n'ont pas des pieds, ils ont plutôt des pattes, hein, en ayant les pieds dans le fumier. Et c'est vrai, on voit toujours un coq, autrefois disons, hein, on voyait un coq sur un tas de fumier. Il était très glorieux. Alors parlant de certaines misères d'un certain gouvernement, alors on disait, bien, on chante quand même. Cocorico, tout va très bien. Mais voilà, vous pouvez méditer là-dessus, sur cette démarche des animaux, qui nous montre aussi quelle marche nous devrions avoir, hein. Avoir une belle démarche. Est-ce que nous, les chrétiens, nous avons une belle démarche, ou bien que nous sommes des boiteux des deux côtés? Quelle est notre démarche? Jean-Baptiste, il a été saisi par la marche de qui? De Jésus. Le voyant marcher. Jean chapitre 1. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dit ça en l'ayant vu marcher. Et Jean et André suivent Jésus. Le dernier verset, si tu as été assez sot pour te vanter, alors donc vous voyez, quand on se vante, qu'est-ce qu'on est? On est sot.
Comment a traduit ici le second? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur la bouche, c'est-à-dire ferme-la.
Vous savez que c'est un mot qu'on emploie hein, dans le monde. Bien nous aussi, nous devions peut-être la fermer quelquefois. Job, il l'a compris. Quand il a entendu le Seigneur, il a dit, maintenant je mets ma main sur ma bouche. J'ai trop parlé. Je mets ma main sur ma bouche. J'ai dit des choses qui me dépassaient. J'ai dit, sans comprendre, des paroles qui m'ont dépassé. Et puis si j'ai des mauvaises pensées aussi, je m'en humilie, je ne vais pas suivre ces pensées-là. Puis alors, vous avez ce fameux passage, car la pression du lait produit de la crème. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Mais le lait, c'est une bonne chose. Hein. Quand tu presses le lait, tu as quelque chose de meilleur. La pression d'une bonne chose produit quelque chose de meilleur. Mais la pression du nez, qu'est-ce qu'il est bon, nez? Il est en or? C'est de chair, hein? C'est de la chair. Si tu me donnes un coup de poing sur le nez, qu'est-ce que ça fait? Ça saigne. Hein? La pression d'une chose mauvaise, dans le sens de la chair qui est le symbole de quelque chose de mauvais, eh bien, si je presse la chair de quelqu'un, qu'est-ce qui sort? Sort du sang. La pression d'une bonne chose produit une chose meilleure. La pression d'une chose mauvaise produit une chose pire. Comprenez-vous? Si je presse la chair de quelqu'un, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de la corruption. Alors veillons. On sait que nous vivons, nous sommes des êtres de chair. Nous vivons au milieu d'hommes de chair. Et si j'agace la chair, qu'est-ce que ça donne? Ça risque de donner du sang. Alors la pression de la colère produit des querelles. Alors jugeons-nous de la colère. Et ayons justement ce discernement pour savoir ce qu'on peut presser et ce qu'on ne doit pas presser pour éviter certains troubles. Voilà, nous avons survoler, je dis seulement survoler, est souvent à haute altitude, ce chapitre 30 des Proverbes. Et je vous ai dit maintenant que nous allons faire une petite récapitulation, c'est peut-être pour ça que le Seigneur a permis les quelques gouttes de pluie, vous êtes peut-être mieux installés ici, ça ne sera pas long, mais j'ai noté quelques points. La crainte de l'Éternel, c'est le grand sujet au fond des Proverbes. Ça revient 14 fois dans les Proverbes. Cette crainte de l'Éternel dont nous avons vu une définition merveilleuse dans quel livre? Le livre de Job, chapitre 28, verset 28. Et nous avons aussi une définition merveilleuse de la crainte de l'Éternel dans le psaume 111e. C'est pour résumer au fond tout ce livre des Proverbes qui nous enseignent la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors on l'a vu que cette crainte était le commencement de la sagesse et qu'il faut savoir la choisir. Ceux qui ne la choisissent pas se perdent. chapitre 1, verset 7 et verset 29. Dans le chapitre 2, nous avons découvert comment on peut arriver à comprendre la sagesse. Tu comprendras la sagesse. Chapitre 2, verset 5. C'est ensuite, chapitre 8, verset 13. Le commencement de la sagesse, c'est de haïr le mal, avoir la haine du mal. Chapitre 9, verset 10. Oui, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, il l'a répété. Chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel, elle ajoute des jours. Chapitre 14, verset 26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité et la force. Chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel, c'est une fontaine de vie. Chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que de grandes richesses. Chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel est la discipline de la sagesse. Chapitre 16, verset 6. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Chapitre 19, verset 23. La crainte de l'Éternel, elle mène où ? À la vie. Chapitre 22, verset 4. La fin de la débonnaireté ou le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les méchants, mais sois tout le jour dans la crainte de l'Éternel. Voilà ce que nous pouvons résumer de la crainte de l'Éternel. Maintenant, les béatitudes. J'ai dit que nous en avions 8, quoi qu'il soit parlé 9 fois du bonheur. Proverbe 3, verset 13. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse. Proverbe 8, verset 32. Bienheureux ceux qui gardent mes voies. Chapitre 8, verset 34, troisième béatitude. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes, jour et nuit. Proverbe 14, verset 21. Bienheureux celui qui use de grâce envers le malheureux. Puis, chapitre 16, verset 20. Qui se confie en l'Éternel est rendu bienheureux. Chapitre 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Chapitre 28, verset 14. Bienheureux l'homme qui craint continuellement. Et 29, verset 18, la huitième. Bienheureux celui qui garde la loi. Maintenant, si vous le voulez, je passe aux abominations. Il y a 14 choses qui sont nommées comme étant une abomination, puis il y en a 7 que vous pouvez ajouter quand vous comptez les 7 abominations du chapitre 6. Ça fait donc 21 choses qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Selon, quelquefois, a traduit que ce sont des choses qui sont en horreur. Mais littéralement, c'est une abomination. Alors, l'Éternel a en abomination, en horreur, l'homme pervers. Proverbe 3, verset 32. L'homme, donc, qui a perverti ses voies, qui ne marche pas dans le conseil du Seigneur. Le Seigneur l'a en abomination. Chapitre 6, verset 16. L'Éternel est 6 choses, et il y en a 7. Ça, c'est un de ses proverbes numériques. Il y en a 7
qui sont en abomination à son âme. Alors, souvenez-vous de ces choses qui sont en abomination à son âme. Ce que l'Éternel est, qu'il a en horreur, ce sont, verset 17, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà les choses que Dieu est, alors je m'en sépare. Chapitre 8, verset 7. La méchanceté sera une abomination pour mes lèvres. Je renonce à la méchanceté. C'est une abomination pour mes lèvres. Chapitre 11, verset 1. La fausse balance est en abomination à l'Éternel. Il l'a en horreur. Donc dans nos relations commerciales, faisons attention. Et aussi dans nos relations spirituelles. 11, verset 20. Ceux qui sont pervers de cœur sont en abomination à l'Éternel. C'est comme au chapitre 3, verset 32. Chapitre 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel. Les en horreur. Alors n'ayons plus des lèvres menteuses si nous sommes les disciples de celui dont la grâce était sur ses lèvres. Chapitre 15, verset 8, le sacrifice des méchants est une abomination aux yeux de l'Éternel. Chapitre 15, verset 9, la voix du méchant est en abomination à l'Éternel. Alors je ne vais pas la suivre. Chapitre 15, verset 26, les machinations de l'inique sont en abomination à l'Éternel. Chapitre 21, verset 27, le sacrifice des méchants est une abomination, c'est la même chose qu'au chapitre 15, verset 8. Chapitre 16, verset 5, tout cœur orgueilleux est en abomination à l'Éternel. Chapitre 17, verset 15, celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste, tous deux sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Justifier le méchant et condamner le juste est une abomination. 20, verset 10, poids, épha et épha sont tous deux en abomination à l'Éternel. Des faux poids, le Seigneur ne supporte pas ça. C'est aussi au chapitre 20, verset 23, poids et poids est en abomination à l'Éternel. Et chapitre 28, la dernière fois qu'on trouve ce mot, verset 9, qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est en abomination. Voulez-vous encore les mieux vaut? C'est le dernier. 15 fois vous trouvez mieux vaut. Proverbe 12, verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et manquer de pain. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Chapitre 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Chapitre 16, verset 8. Mieux vaut peu avec justice que de grands revenus avec l'injustice. Chapitre 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Chapitre 16, verset 32.
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Chapitre 19, verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Chapitre 19, verset 22. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritable. Chapitre 25, verset 7. Mieux vaut qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince qui te gouverne, que tes yeux voient. Chapitre 27, verset 5, c'est l'avant-dernier. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Et enfin, verset 27, chapitre 27, verset 10, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Et te bénir de ce que tu nous as permis d'arriver à la fin de ce chapitre 30, et nous te prions qu'il reste quelque chose d'utile dans chacune de nos vies. Que dans les jours qui viendront, quelle que soit notre situation, nous puissions réaliser que ta parole est réellement la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Que tu nous donnes cette humilité d'agir qui reconnaît qu'il ne sait rien et qu'il a tout à apprendre, comme Socrate lui-même, ce païen, qui disait qu'il ne savait rien.